Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raison gardée, l'émission proposée par la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Charles.
Bonjour.
Tu es avec moi au micro aujourd'hui pour aborder une notion, un mot qui nous pose bien des problèmes et qui a peut-être alimenté vos conversations de fêtes de famille de fin d'année. Le mot, c'est le wokisme, histoire d'un mot devenu une insulte. Qu'est-ce que c'est être woke? Qu'est-ce que le wokisme? C'est une question qui suppose d'abord peut-être de réfléchir à ce qu'est ce mot qui est méconnu. On ne sait plus très bien ce qu'il désigne. J'ai retrouvé un sondage qui date de février 2021, un sondage pour l'IFOP. 14% seulement des personnes qui ont répondu avaient déjà entendu le terme et 8% voyaient à peu près de quoi il s'agissait. Donc c'est dire que ce mot très employé finalement ne dit pas grand chose. Et on a pensé à parler de ce sujet, alors non seulement parce que la Fédération de la Libre Pensée a sorti un petit fascicule là-dessus, mais parce que c'est un mot qu'on entend vraiment partout quand on traîne sur certaines chaînes d'information continue. Je ne sais pas Charles si tu as déjà remarqué cela, mais l'autre jour j'entendais une présentatrice, Laurence Ferrari pour ne pas la nommer, qui ne cessait d'interrompre son invité en lui disant « Mais est-ce que ça c'est pas woke? Est-ce que ça c'est pas woke? Est-ce que ça c'est pas woke ?» Mais que voulait-elle dire? Quel est ce mystère? Qu'est-ce que le woke? Et puis Charles, tu m'as montré un article de la semaine,
oui.
Notre journal
local
du 12 janvier 2022 et il y avait un article qui posait la question « L'école cède-t-elle à l'idéologie woke ?» Un article de Jean-Marc Louis qui manifestement a sa réponse, hein, sa réponse serait oui. Mais je me suis bien demandé ce que les gens pouvaient savoir de ce qu'était l'idéologie woke exactement à la lecture de cet article. Donc je crois qu'on peut quand même prendre le temps déjà d'essayer de réfléchir à l'origine du mot, à son sens et à ce que veulent dire ceux qui l'utilisent. Comment un mot qui vient de l'anglais, en particulier de l'anglais des États-Unis, qui désignait d'abord une attitude plutôt digne d'éloge, est-elle passée en France dans la bouche de certains pour dévaloriser certaines idées, certaines demandes, une certaine pensée que d'aucuns qualifieront d'idéologique? Alors, on peut commencer par revenir sur l'origine du mot. Donc, c'est un mot, je le disais à l'instant, qui vient de l'anglais, qui est dérivé d'un anglais en particulier utilisé dans l'américain, afro-américain, très exactement, disent les spécialistes, et qui vient du verbe qui veut dire to wake, hein, qui veut dire normalement veiller, être vigilant, et non pas se réveiller comme on le dit souvent. Donc c'est une forme du verbe qui n'est pas grammaticalement complètement correcte parce qu'elle est passée par la langue afro-américaine populaire et ce terme semble désigner, si on essaye de poser rapidement une première définition, le fait d'être conscient des injustices subies par des minorités et toute forme de discrimination. C'est donc un terme qui initialement est employé plutôt de manière élogieuse pour exprimer un état d'éveil ou d'alerte par rapport à différentes formes d'oppression. Alors les linguistes qui se sont interrogés sur l'origine du mot ont vu que déjà au XIXe siècle, en fait, dans les combats pour l'abolition de l'esclavage, on trouvait dans des articles le terme pour dire que justement les anti-esclavagistes étaient très éveillés pour défendre ce sujet. Donc dans un premier temps, le verbe, le mot semble avoir été d'abord lié à cette lutte contre l'esclavage. Et on retrouve notamment le mot dans le titre d'un ouvrage de Booker T. Washington en 1896, dont je traduis comme ça approximativement le titre, qui serait « L'éveil des Noirs », qui est un ouvrage dans lequel l'auteur veut inciter les Noirs américains à prendre en main le combat pour la reconnaissance de leurs droits. Le terme, on le retrouve en 1938 dans une chanson protestataire d'un musicien de blues qui s'appelle Lead Belly, qui raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents noirs accusés du viol de deux femmes blanches à Scottsboro, dans l'Arkansas. C'est une histoire qui est très connue, qui a été traitée au cinéma, qui a été traitée dans une mini-série, je crois aussi, qui a été traitée dans un roman, et qui a même été le sujet d'une comédie musicale, si mes informations sont exactes. 9 Afro-Américains accusés de viol, jugés en un temps record par un jury blanc, et bien sûr sur les 9, 8 ont été condamnés à mort. Et c'est ce sujet que traite le chanteur. On y trouve l'expression « Stay Woke ». C'est cette chanson que nous écoutons maintenant ensemble, « Lead Belly ».
I made this song about Scottsboro boys because I've been all over Alabama, Winningham, Montgomery. And in Alabama, it must be Jim Crow or something like that because they turn loose something and they're trying to keep the others down. I don't see why don't you turn all of them loose. And this is a song with Scottsboro boys. We Alabama, any better watch out. The landlord thinks he's gonna jump and shout. Scottsboro, Scottsboro, Scottsboro boys, they can tell you what it's all about. Woody Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. That's what gospel, gospel boys, they tell you it's all about. I'm gonna talk to a jeweler, as gentle as they to me. Don't he never try to make nobody an Alabama read. Woody Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. That's what gospel, gospel boys, they tell you it's all about. Woody Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. That's what gospel, gospel boys, here is all about. I'm gonna tell all the colored people, living on Sugar Hill. Don't you know what Woody Alabama to try to live? Woody Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. That's what gospel, gospel boys, here is all about. Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. That's what gospel, gospel boys, here it's all about. Oh, shit. Woody Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. Gospel, gospel, gospel boys, here it's all about. Living in Harlem swing. Don't you never go to Alabama to try to sing. Woody Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. That's what gospel, gospel boys, they tell you it's all about. Woody Alabama, any bit of a doubt, the landlord gets you gonna jump and shout. That's what gospel, gospel boys, they tell you it's all about. The boys left on a trip, you know, to ride in a freight train. And they met two white women in there, you know. The white women was boots and two, what we call it. And they was beating their way along, and they met up to the boys, it was about 9 boys. And they rode along with them, and they went out. One of the women said it wasn't so, and the other said it was. Now they gonna hold all of them for just one something, which I don't think none of it was true. But they turned loose 4, and now they got a few more. I think they ought to turn them all loose. That's what they call it happened, so they put the boys in jail. Give some of them life and some got loose. But I don't think it's true. But anyhow, the last word is this. I'm gonna tell all the colored people living in Harlem swing. Don't you know Woody Alabama should try to sing? Woody Alabama, any bit of a doubt, landlord gets you gonna jump in the shower. That's what's got, what's got the boys, hear what it's all about.
Lead Belly, donc vous excuserez mon anglais, hein, je n'ai pas révisé avant de venir. Une chanson qui évoque, je le disais tout à l'heure, ce procès des 9 garçons accusés de viol dans la chanson. Donc il dit, je conseille à tout le monde de faire attention quand il passe dans le secteur, il ferait mieux de rester vigilant, c'est là où il dit stay woke, et de garder les yeux ouverts. Nous étions en 1938, on fait un petit saut en 1943, dans un article publié dans le magazine américain The Atlantic, un professeur cite un mineur syndiqué qui lui aussi reprend ce mot de be woke. Donc le mot commence à être utilisé aussi, en tout cas on en a la trace écrite, pour évoquer des situations sociales et économiques, et donc d'autres combats que le combat pour les droits des citoyens afro-américains. Donc il reprend dans une phrase où il dit l'homme blanc, l'auteur de l'article ensuite reprend lui aussi le mot en disant l'homme blanc déprimé du Sud s'éveille seulement pour découvrir que lui et le noir ont été drogués à la haine raciale. Dans un article du Monde de février 2021, un historien spécialisé justement dans l'histoire des États-Unis et l'histoire de la condition noire, un historien qui s'appelle Pap Ndiaye, qui s'appelle toujours Pap Ndiaye mais qui maintenant est devenu ministre de l'Éducation nationale, rappelait que dans le discours de l'université d'Oberlin en Ohio, en juin 1965, Martin Luther King aussi reprend cette idée d'être éveillé. Et il encourage la génération à laquelle il s'adresse, la jeune génération, à s'engager dans les combats toujours pour les droits des Afro-Américains. On trouve le mot dans un dictionnaire de 1972, un dictionnaire d'anglais, « to be woke », être préoccupé des injustices et des discriminations. C'est ainsi que le dictionnaire définit le mot. Pourtant, déjà, autour de ce mot, aux États-Unis, des intellectuels, qu'on pourrait qualifier plutôt de conservateurs, mettent en cause cette attitude et cet engagement politique de remise en question d'une certaine histoire, d'une certaine façon d'écrire l'histoire des États-Unis et d'une situation aussi sociale, économique, discriminante. On trouve dans un article de l'intellectuel William F. Buckley Jr. Des reproches aux universitaires, aux philosophes qu'il accuse d'avoir tué toute idée d'absolu, de vérité et de droit, à force, en combattant pour les droits de tous. Il s'en prend aussi à l'écrivain James Baldwin, qui avait écrit « La prochaine fois, le feu », un écrivain qui a réfléchi à la discrimination dont il était victime doublement en tant que noir et en tant qu'homosexuel. Un très beau texte, « La prochaine fois, le feu » de James Baldwin. Et il y interrogeait le rôle des institutions, et notamment de l'école, dans la reproduction des inégalités et des stéréotypes. C'est ce genre de discours qui suscitait déjà la réaction des conservateurs à l'époque. Donc, les États-Unis, sur les campus américains, des penseurs vont venir jouer un rôle très important. Ce sont des penseurs français. C'est ce qu'on appelle la French Theory aux États-Unis. Ces penseurs français, ce sont par exemple Derrida et Foucault, dont la réflexion sur la distance que nous sommes invités à prendre avec notre culture, notre façon de penser, vont énormément nourrir les étudiants américains, mais qui vont s'approprier cette idée en fonction de leur propre culture, de leur propre histoire et des enseignements qui leur étaient délivrés. Le procès est fait parfois justement, bien malgré eux d'ailleurs, à Derrida et à Foucault, d'avoir nourri une sorte de critique des idées qui nous sont chères et que nous qualifions d'universelles. Mais il y a peut-être eu justement une relecture de ce que proposaient Derrida et Foucault à la lumière de cette histoire américaine. Alors, ce que propose Derrida, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. C'est quand même une notion très très difficile à comprendre. En plus, les textes de Derrida ne sont pas très faciles d'accès, je trouve. Leur lecture demande quand même du temps pour s'approprier correctement ces idées. Mais en tout cas, il y avait, comme chez Foucault, la volonté de mettre en garde, en quelque sorte, sur tout ce que porte notre culture, toutes les idées que nous avons intégrées, de les mettre à distance pour les interroger. Foucault disait dans « Surveiller et punir », « pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre ». Et donc cette démarche de mise à distance, qui est une volonté de déconstruire peut-être certaines idées auxquelles on oubliait de réfléchir, n'était pas une campagne de destruction, contrairement peut-être à ce que l'on peut croire, mais vraiment une invitation à peut-être justement être éveiller et faire attention à ce que l'on dit, et que c'est de comprendre pourquoi l'on pense certaines choses. Et c'est ainsi que les étudiants américains et certains professeurs des États-Unis vont lire et interpréter cette pensée française. Là, nous étions dans les années 70. Le mot vit sa vie. Et puis, le mot woke réapparaît très fortement en 2008, d'abord, puis en 2014. Alors, en 2008, on le retrouve dans une chanson d'une chanteuse américaine qui s'appelle Erykah Badu, qui chante « I stay woke », « Je reste éveillée », dans une de ses chansons qui s'appelle « Master Teacher ». Et puis, surtout, le mot se retrouve au moment des émeutes après le meurtre de Michael Brown, donc dans les émeutes de Ferguson, hein, dans le Missouri, et il est très largement employé dans les manifestations du mouvement Black Lives Matter. Mais je vous propose d'écouter d'abord une chanson d'Erykah Badu pour notre deuxième pause musicale.
Hey.
Nous sommes de retour sur Raison Gardée, l'émission que vous écoutez sur RCN, et nous parlions du wokisme. Donc le mot woke, je le disais avant notre petite pause musicale, a été largement repris au moment des émeutes et du mouvement Black Lives Matter, des émeutes liées à la mort de Michael Brown et au mouvement Black Lives Matter. Donc tué Black Michael Brown, je rappelle, hein, tué par un policier blanc à Ferguson en 2014. Et c'est aussi à ce moment-là que le mot est récupéré par les conservateurs américains pour dénigrer, dévaloriser le mouvement justement de défense des droits des Noirs, en tout cas le mouvement qui visait à dénoncer toutes les discriminations dont ils sont toujours les victimes. Donc le mot est très nettement repris pour disqualifier le mouvement et disqualifier aussi ceux qui font usage de ce mot woke. Et dans le petit ouvrage publié par un ami de la Fédération de la Libre Pensée sur le wokisme, ce qu'il a fait, que je trouvais intéressant, c'était qu'il est allé regarder dans un dictionnaire collaboratif en ligne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Urban Dictionary, et qui propose des termes argotiques en demandant aux gens de proposer leur définition ou de voter pour la définition qui leur paraît la plus juste, la plus conforme à leur façon de comprendre le mot. Et il a constaté que les suffrages portent essentiellement sur des définitions négatives du mot « woke ». Par exemple, j'ai relevé « woke » signifierait « faussement conscient ». Et même dans certains cas, certains ont validé la définition arrogant. Donc on voit bien que le mot est devenu très polémique et qu'il est retourné contre ceux qu'il avait utilisé au sens dans son sens premier, d'éveil. Alors, finalement, que dire exactement de ce mot woke ? Que voulait-il signifier à l'origine ? Si, avant qu'il devienne un mot repoussoir pour certains. Au début, il s'agissait donc d'être éveillé par rapport au regard qu'on porte sur l'autre, être éveillé par rapport à la question de l'identité, être éveillé par rapport à des formes de discrimination qui sont d'abord des discriminations raciales, racistes, puis des discriminations aussi sociales. C'est manifestement en ce sens d'abord que le mot existait. Alors, est-ce que c'est un mot qui serait, pour le dire rapidement, un mot de gauche à l'origine ? C'est-à-dire, quelles sont les idées ou quelles sont les valeurs qui étaient portées par ces mouvements ? Si on se réfère à l'origine de tous ces mouvements que j'évoquais, depuis le 19e siècle et la lutte contre l'esclavage, on voit bien que l'idée était d'exprimer une attention envers les populations marginalisées, d'exprimer un désir d'égalité, d'exprimer de l'intérêt pour l'histoire des oppressions. Mais là où parfois la notion même de wokisme peut être gênante, c'est parce qu'on s'interroge sur ce que l'on fait d'autres valeurs, d'autres principes qui sont essentiels, comme l'universalisme, la question du progrès et la façon dont on peut construire ensemble le progrès social. Pourtant, il faut quand même bien constater que concrètement, ceux qui au début ont utilisé ce terme « woke » ont bien œuvré et continuent encore à le faire pour une lutte antiraciste, contre les violences policières, hein, si on se réfère au mouvement « Black Lives Matter », et aussi pour des combats pour l'égalité homme-femme. On entend bien aujourd'hui encore, je donnais en début d'émission l'exemple de Laurence Ferrari sur une chaîne d'information continue, on voit bien que dès qu'il s'agit de combats pour l'égalité, elle rétorque à son interlocuteur que ce combat relève de l'idéologie woke. Donc un mot qui a pour but de paralyser un peu la personne qui est en face d'elle. Parce que il faut aussi comprendre pourquoi certains sont les détracteurs du woke. Le regard de quelqu'un qu'on va dire de plus conservateur sur ces combats est un regard très négatif. peut-être un regard aussi très, très inquiet. En tout cas, en France, on dit souvent que les woke, ceux qui se revendiquent du wokisme, seraient des anti-lumières. Alors, on sait à quel point, intellectuellement, nous sommes attachés à ce mouvement du XVIIIe siècle, à ce mouvement des Lumières, qui incarne pour nous, qui représente pour nous tout un système de valeurs qui fonde notre République. Pour certains, la volonté de dénoncer les discriminations conduirait à tout analyser sous l'angle, un angle qu'ils qualifient de victimaire. Ils considèrent que on ne peut plus parler de valeurs universelles devant quelqu'un qui serait woke, parce que sinon on est accusé d'ethnocentrisme. Ils se demandent si, au fond, la réflexion sur les différences et les discriminations ne conduit pas à un climat de méfiance et d'intolérance tel que les échanges et les débats ne seraient absolument plus possibles. Et en fait, grâce à ce mot, eh bien, chacun accuse l'autre d'être enfermé dans une idéologie qui nuit au dialogue, qui le ruine, qui l'empêche. Et finalement, et c'était l'objet du titre de cette émission, le mot en lui-même est devenu une forme d'insulte et on ne réussit plus à comprendre exactement ce qu'il veut dire. Il me semble que justement ceux qui défendent certaines idées prennent garde de ne pas se dire woke et ont laissé le mot à juste titre à ceux qui les critiquent. Je pense notamment à notre ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui a créé un laboratoire de la République, considérant que l'un des objectifs de ce laboratoire républicain était de lutter contre l'idéologie woke et la cancel culture, autre notion dont nous parlerons bientôt. Donc, en tout cas, ce qui est clair pour nous à la Fédération de la Libre Pensée, c'est qu'il convient de mener toutes les analyses nécessaires pour défendre les libertés, pour défendre aussi certaines valeurs, sans nier que, historiquement, ces valeurs ont pu être utilisées contre une partie de nos semblables. Ça, c'est clair, il serait aberrant de ne pas le reconnaître. Je vous propose de terminer sur une belle chanson de B.B. King. Je vous invite à podcaster l'émission et nous traiterons la prochaine fois justement d'une autre notion problématique qui est la cancel culture. Je vous dis à très bientôt sur RCN.
This morning, my baby was gone. Woke up this morning, my baby was gone. I feel so bad, I'm all alone. I ain't got nobody to stay at home with me. We'll be right back.